Pauline Pucciano, La cité hantée. Chapitre 2. La terrasse du chancelier. Vous vous souvenez? C'est ici que tout a commencé.
Comment aurais-je pu l'oublier?
C'était bien le même point de vue splendide qu'elle avait cru ne jamais plus revoir 5 ans auparavant. Comme alors, la cité s'étageait, blanche et gracieuse, en contrebas. Cependant, quelques détails avaient changé. À la place du canal frontière, désormais asséché, coulait une verte promenade arborée. Les marches, cette grande place vide qui jadis accentuait encore la séparation entre les deux parties d'Albâtre, étaient maintenant construites. Des bâtiments blancs, modestes mais d'une ligne pure, et tous en albâtre, formaient de nouvelles rues et dessinaient même une place ovale, bordée de commerces, où une population particulièrement métissée s'était récemment installée. Où sont passés vos oiseaux légendes?
La femelle est morte peu avant la Révolution. Le mâle, quant à lui, ne s'est pas adapté à sa nouvelle existence.
Il semble que vous ayez été plus résilient que lui. Les deux personnages se fixèrent un moment. À Eleanor regretta presque sa remarque ironique, car elle ne se sentait pas d'animosité particulière envers le vieil homme qu'elle avait un jour affronté.
« Vous vous souvenez? Vous m'aviez prédit une chute dont je ne me relèverais pas. »«
Et vous nous avez tous emportés dans cette chute. »« Albâtre n'est pas tombé, chancelier, et vous le savez pertinemment. Elle se renforce de jour en jour. »
« Vous me gratifiez d'un titre obsolète, à Eleanor. Appelez-moi simplement Ruben, car je ne suis plus chancelier de la haute école. D'ailleurs, je suis curieux de savoir ce qui vous a porté à solliciter cet entretien. En quoi pourrais-je bien vous être utile ?»
À Eleanor prit une profonde inspiration et désigna son fils Artus, qui jouait tranquillement à quelques mètres d'eux. Il se parlait à lui-même et paraissait absorbé dans une activité complexe et incompréhensible, tout occupé de choses invisibles. Les papillons rouges, qui voletaient partout dans la ville, le nimbaient de leurs nuées changeantes, presque comme s'il était l'un des leurs.
« Je fais appel à votre intelligence, que j'ai toujours estimée, et à votre expérience des enfants que je ne possède guère.
À propos de votre fils ?
Oui, il vient d'avoir 3 ans. Il est né la nuit de la Révolution.
Certes, tous les citoyens d'Albâtre connaissent ce détail. » Il fait partie du mythe.
Ce que les citoyens ignorent, songea à Eleanor, c'est que j'ai accouché de 2 fils et que mon frère m'a volé le premier.
C'est un enfant très particulier, reprit à Eleanor. Il a des compagnons et des ennemis imaginaires. Il parle d'un frère sous la terre et d'un fantôme dans la ville qui cherche à faire le mal. Il prononce des phrases étranges qu'il refuse d'expliquer ensuite.
Des phrases de quel genre ?
Ce matin, il a salué l'Est, comme tous les matins. Il m'a regardé gravement et m'a dit « La mort de mon père est un rideau. » Il y a quelques jours, nous avons assisté à une rixe entre un haut et un bas citoyen. Il m'a dit « Ces hommes se battent parce qu'ils ne jouent pas au même jeu. » En venant vous voir, il m'a dit « La mère est folle si elle a besoin des yeux d'un autre pour voir son enfant. » Je crois qu'il parlait de vous, de moi, de ma décision de vous parler de lui.
Y a-t-il autre chose ?
Oui, c'est délicat. Je crois, je n'en suis pas sûre, mais je crois qu'il utilise l'esprit.
Le chancelier Ruben ne put réprimer un mouvement de vif intérêt.
C'est impossible !
À Eleanor le dévisagea.
Vous étiez très doué pour l'esprit, Ruben, tout comme moi.
Et ?
N'avez-vous jamais ressenti depuis 3 ans de frémissements dans votre pierre frontale ?
Si cela avait été le cas, je ne le crierais certainement pas sur les toits, ma chère. L'utilisation de l'esprit a été interdite par vos amis.
Je sais cela. Je ne cherche pas à vous piéger.
Vraiment? Pourquoi le ferais-je?
Parce que vous me devez une cicatrice sur votre joue gauche, parce que je symbolise toute la résistance de la noblesse à votre aventure populaire.
Vous êtes vaincu, chancelier, et je ne suis pas si coquette.
Je suppose que vous avez vous-même ressenti les frémissements que vous me décrivez.
Oui, à plusieurs reprises, et de plus en plus fréquemment ces derniers mois, surtout dans des situations où son utilisation était instinctive, pour compter, pour maîtriser la douleur, pour réguler la tension.
Qu'en concluez-vous ?
Que je ne dois pas être la seule, et que cette question doit être débattue si la chose est avérée.
Mais, encore une fois, c'est à propos d'Artus que je viens vous voir.
Je l'ai entendu utiliser le verbe pour convaincre ses interlocuteurs. Je l'ai vu utiliser l'esprit pour rendre un geste plus précis.
Comment pouvez-vous en être sûr ? Il n'a pas de pierre frontale.
C'est la raison pour laquelle je vous l'ai amené.
Pour que je vous donne mon avis d'expert sur la question.
Exactement.
Le chancelier Ruben prit à son tour une profonde inspiration. Il n'était pas dans ses habitudes de prendre ses décisions à la légère, et il y avait là une grande quantité de paramètres à soupeser. D'abord, il fallait être sûr qu'elle ignorait la vérité concernant le pacte de mort qu'il avait scellé avec Sornar. Il se félicitait de la discrétion prudente avec laquelle il avait agi. Nul autre que lui et le maître des ombres ne connaissait l'existence de la liste de noms de ceux que le chancelier avait voulu voir morts. Liste au sommet de laquelle se trouvaient les noms d'Aelenor et de Keller. Le chancelier n'avait jamais su pourquoi Sornar n'avait pas honoré cette partie du contrat, et ne le saurait probablement jamais, car le maître des ombres avait totalement disparu. Il était donc probable qu'elle ne nourrît à son encontre aucun soupçon particulier. Mais si l'esprit revenait dans la partie, le risque d'être découvert ne ressurgirait-il pas ? Il valait peut-être mieux œuvrer pour maintenir longtemps proscrite l'utilisation de l'esprit. D'un autre côté, cette abstinence ôtait tout le sel de la vie, et il s'ennuyait tellement ces derniers temps. Il jeta les yeux machinalement sur le petit Artus. Il semblait avoir fini ses jeux mystérieux et regardait le panorama avec la gravité d'un sage en méditation. Sans raison apparente, l'enfant tourna la tête vers le chancelier, posément, et fixa son regard sur lui. Il était encore un tout petit enfant. Ses traits, encore indéterminés, n'exprimaient que la fragilité et la douceur. Ses cheveux longs et soyeux semblaient faits de duvet, sa peau était potelée comme celle d'un bébé, et ses mouvements pâteaux rappelaient sans cesse son immaturité. Et pourtant, ses yeux fixes, graves, paraissaient vous sonder comme ceux d'un vieillard. Le chancelier se sentit à la fois intrigué et déstabilisé, et laissa l'enfant se lever et venir à lui sans dire un mot.
« Ne fais plus de mal à ma mère, » dit l'enfant.
« Artus !» gronda Eleanor. « Il est très grossier de suggérer que... »«
Il a compris, » se défendit l'enfant. « Nous serons amis. »
Ruben sentit une perle de sueur froide couler le long de sa tempe. Il s'entendit répondre sur un ton patelin.
« Nous serons amis, jeune Artus, et tu me livreras les secrets de ton esprit. »
L'enfant parut n'écouter qu'à peine la réponse et s'enfuit en courant à la poursuite des papillons qui, à cette heure précédant le crépuscule, s'agitaient particulièrement. «
Vous comprenez mieux ma démarche ?» demanda à Eleanor.
L'ancien chancelier, à qui elle s'adressait comme à un précepteur, sourit.
« Vous envisagez de me le confier pendant quelque temps.
Quelques heures par jour, si ça ne vous dérange pas, le temps que vous vous fassiez une opinion. »
Qu'attendez-vous de moi ?
Des conseils, je suppose. Je ne suis pas très sûre de savoir comment les lever.
Votre humilité me surprend, je dois l'avouer.
Parmi tout ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui a eu finalement raison de votre orgueil ?
Elle réfléchit.
De rencontrer des gens qui n'en avaient pas.
On raconte que vous avez passé quelque temps chez les spiritualistes ?
En effet.
Je serais curieux d'entendre cette histoire.
Aelenor ne répondit pas et appela Artus, qui se précipita vers elle et l'embrassa comme si elle lui avait manqué pendant une longue absence. Elle oublia un instant le chancelier dans cette effusion, et le vieil homme la vit se transformer sous ses yeux et sourire à son fils, sans qu'il fût besoin d'aucun mot pour comprendre la nature exclusive et passionnelle de leur amour mutuel. Il comprit aussi qu'elle était venue à lui en mère et ne s'adresserait à lui qu'à travers ce prisme. Ce ne serait donc qu'à travers cette faiblesse qu'il serait possible de l'atteindre. Après avoir fixé un rendez-vous pour le lendemain, elle prit congé de lui poliment, esquissant même un salut protocolaire ancien, qui était singulièrement passé de mode, et tandis qu'elle soulevait son fils pour marcher plus vite, il les observa encore. Ils ne parlaient pas, et pourtant se mirent à rire presque au même moment,
avant de disparaître à ses regards derrière les colonnes. L'intelligence de Ruben était une machine huilée, habituée à la tâche et qui se mettait en marche toute seule, sans intervention particulière de sa volonté. Tout en contemplant, comme il l'avait si souvent fait, le paysage, il classait machinalement les informations. À Eleanor nourrissait pour cet enfant une passion inquiète, dont elle l'avait fait, contre toute attente, le témoin, et dont il pourrait, avec un peu d'habileté, devenir le complice. Se rendre indispensable à l'éducation de cet enfant était une tâche à sa mesure, et pourrait lui ouvrir de nombreux possibles. L'amitié d'Aélénor n'était pas à négliger dans cette république fantoche. Elle occupait une place au conseil, était reçue et révérée par Aumont, elle avait l'amour du peuple, et ses prises de position publique n'étaient somme toute pas si détestables. Ce qu'elle lui avait dit sur l'esprit confirmait ses propres doutes, et même s'il eut par nature ou par goût de l'intrigue préféré garder cette information secrète, il comptait sur l'influence qu'il allait gagner sur elle pour porter ses propres idées auprès du gouvernement. Après tout, cette amitié, s'il prenait soin de ne pas la gâcher, pouvait le remettre en selle, lui redonner un peu du pouvoir que ces 3 dernières années lui avaient si cruellement retiré. L'image du petit garçon lui revint. Était-ce la mère qui projetait des dons quasi surnaturels sur son fils? Ou y avait-il là quelque chose de réel? L'enfant était intéressant, à n'en pas douter, et peut-être beaucoup plus que cela. S'il utilisait vraiment l'esprit et le verbe, sans y avoir été entraîné, et malgré la présence des papillons, quelle sorte de pouvoir spirituel était-il destiné à posséder? N'était-il pas dès lors le levier le plus puissant, le rouage majeur de la nouvelle albâtre? Et Aélénor venait juste de lui confier explicitement un rôle de conseiller dans son éducation. Ceci pouvait faire de lui un personnage influent, ce qui n'était à négliger ni pour lui-même ni pour sa cause. Il s'était sali les mains pour sauver Albâtre. Il ne pensait pas sans frissonner au meurtre qu'il avait commandité, et peut-être plus encore au pouvoir qu'il avait remis entre les mains de Sornard. Il s'était sali les mains pour rien, et Albâtre avait suivi son destin malgré lui. L'occasion de revenir aux affaires, de donner un sens rétrospectif à toutes ces choses qu'il avait faites, d'œuvrer à nouveau pour le maintien de l'ordre, du savoir et de la noblesse, l'entêtait comme le parfum d'un vin capiteux. On racontait tant de choses sur Aélénor, dont il n'avait jamais pu discerner le bien fondé. On disait qu'elle avait été retrouvée à moitié morte avec son fils dans la caserne de la Guilde de l'Ombre. On disait que son propre frère l'avait violentée et abandonnée là. Mais quel sens donner à ces rumeurs? Pourquoi Sornard aurait-il eu besoin d'elle cette nuit-là? Pourquoi l'avoir capturée? Pourquoi ne pas l'avoir tuée? Avait-elle conclu, elle aussi, quelque pacte mystérieux avec lui pour qu'il quittât la ville? Savait-elle où il se trouvait? Le besoin de savoir chez le chancelier pouvait se faire presque douloureux, et il était aiguisé en cet instant par un renouveau d'espoir. Aélénor avait bien des secrets à révéler. Et si l'idée de les lui extorquer lui paraissait le matin même extravagante et chimérique, elle devenait d'heure en heure plus sérieuse, plus précise et plus tentante. C'est d'un cœur et d'un pas plus léger que Ruben traversa la terrasse de l'université. Elle n'était plus son jardin secret. Comme tous les lieux d'exception, elle s'était ouverte au public, et sa hauteur, sa difficulté d'accès, en avait fait le rendez-vous idéal des amoureux de la ville. Ruben dépassa sans les regarder quelques couples enlacés, puis reprit le chemin de son palais. Il n'avait été dépossédé pour sa part que des 3/4 de sa demeure, et on lui avait concédé de garder une aile privative. Le patio était devenu commun aux différents locataires, et il ne s'y rendait en général que la nuit, lorsque ses voisins n'en troublaient pas la paix. Des enfants bruyants et des basses citoyennes douteuses l'envahissaient ordinairement pendant la journée, mais, bon an mal an, il devait reconnaître que la cohabitation avait été plus facile qu'il ne l'avait imaginé d'abord. Le plus douloureux avait sans doute été de se séparer de son serpent domestique, qui effrayait tant les enfants de Basseville qu'il avait fallu se résigner à le chasser. Nombre de reptiles, ainsi bannis, avaient élu domicile dans le jardin d'été, où leur approvisionnement en nourriture avait fini par poser problème. Une nuit, sans que personne ne sût exactement qui en avait donné l'ordre, ils furent massacrés.
Des peaux chatoyantes et moirées firent leur apparition sur les étals des commerces de la place ovale, et les bas citoyens lancèrent la mode horrible des objets en peau de reptile. Ces nobles animaux à sang froid, symboles de l'ordre et de la beauté, étaient en train de disparaître de la cité d'Albâtre. Dans les rues, ce n'était plus non plus la même atmosphère sonore, ni tout à fait les mêmes parfums qu'autrefois. Des senteurs nouvelles fleurissaient dans l'air, qui pour certaines soulevaient le cœur des natifs de Hauteville. Fumée de viande grillée, d'épices corsées, se mêlaient maintenant aux fragrances plus délicates des traditions nobles. On parlait plus haut, on portait des couleurs plus vives, on était plus nombreux aussi. Et ce paramètre était déterminant. Les habitations bruissaient de vie, les rues de passants, une rumeur diffuse, permanente, flottait dans l'air. Ce n'était pas à proprement parler désagréable. L'impression de vivre dans un décor, dans un musée, s'était simplement évanouie. La cité s'était ancrée dans la terre, dans la sève, dans le sang, et elle portait des fruits inattendus, comme ce petit Artus. Une nuée de papillons s'engouffra dans la rue, vrombissante et erratique. Ruben les supportait encore, bien que leur désordre rouge l'agaçât, mais il avait une sainte horreur de leurs chenilles. Lentes, laborieuses, rampantes, elles avaient déjà dévoré plus de la moitié des feuillages de la ville et s'insinuaient partout. Leurs cocons rougeâtres se collaient au coin des fenêtres et pendaient parfois par un fil de soie accroché à des branches. Le gouvernement avait proscrit leur élimination et les contraventions étaient lourdes, une semaine de travaux d'intérêt général. L'ancien chancelier s'était fait prendre deux fois et avait participé au chantier de la place ovale ainsi qu'à la couverture du nouveau bâtiment central. C'étaient des souvenirs particulièrement humiliants et désagréables. Outre la sueur, la fatigue, la frustration de ne pas pouvoir s'aider de l'esprit pour accomplir des efforts physiques, il avait fallu supporter d'être le moins doué, l'intellectuel aux mains gauches qui ralentissait les autres par sa maladresse. Quelle déchéance ! Mais cela ne l'empêchait pas, lorsqu'il était sûr d'être seul, d'écraser sans scrupule les petites créatures rampantes qui lui paraissaient être des miniatures grotesques, des caricatures infâmes des reptiles d'autrefois. Leur jus immonde s'écoulait de leur corps dans un bruit de succion, et, à chaque fois, l'ancien chancelier Ruben éprouvait à cet instant précis un sentiment affreusement mesquin de revanche sur l'adversité.